Lettres écrites d'Égypte et de Nubie en 1828 et 1829, écrites par Jean-François Champollion. Troisième partie de 3, donc conclusion de la 11e lettre. Le 31, au coucher du soleil, nous étions à Cardassie ou Corta, où j'allais visiter les restes d'un petit temple d'Isis, dénué de sculptures, à l'exception d'un bas-relief sur un fût de colonne. J'avais vu, 2 heures auparavant, les temples de Tafa, l'ancienne Taphis, également sans sculpture ni inscription hiéroglyphique, mais on juge facilement à leur genre d'architecture qu'ils appartiennent au temps de la domination romaine. Le 1er février, nous vîmes venir à nous une cange avec pavillon autrichien. C'était du nouveau pour nous et les conjectures de marché. Cependant, la barque avançait aussi vers nous et je reconnus sur la proue M. Acerbi, consul général d'Autriche en Égypte, qui m'appelait et me saluait de la main. Nous arrêtâmes nos barques et passâmes quelques heures à causer de nos travaux avec cet excellent homme, publiciste et littérateur distingué, qui nous avait traités d'une manière si aimable pendant notre séjour à Alexandrie. Nous nous séparâmes, lui pour remonter jusqu'à la seconde cataracte et moi pour entrer en Égypte avec promesse de nous rejoindre à Thèbes, qui est le Paris de l'Égypte et le rendez-vous des voyageurs. N'en déplaise à la grosse ville du Caire et à la triste Alexandrie. Vers 2 heures après midi, nous étions à Debout ou Déboudé, nous étant rendus au temple, en passant sous les 3 petits propylons sans sculpture, je trouvai qu'il avait été bâti, en grande partie, par un roi éthiopien nommé Ataramon, et qui doit être le prédécesseur ou le successeur immédiat de l'Ergamenès de Daké. Le temple dédié à Amon-Ra, seigneur de Thébo, et à Hathor, et subsidiairement à Osiris et à Isis, a été continué, mais non achevé, sous les empereurs Auguste et Tibère. Dans le sanctuaire, encore non sculpté, gisent les débris d'un mauvais naos monolithe en granit rose du temps des Ptolémées. Notre travail étant terminé, nous rentrâmes dans nos barques, pressés de partir et de profiter du reste de la journée pour arriver à Philae, rentrer ainsi en Égypte et dire adieu à cette pauvre Nubie dont la sécheresse avait déjà lassé tous mes compagnons de voyage. D'ailleurs, en remettant le pied en Égypte, nous pouvions espérer de manger du pain un peu plus supportable que les maigres galettes azim dont nous régalait journellement notre boulanger en chef, tout à fait à la hauteur du gargotier arabe qu'on nous donna au Caire comme un cuisinier cordon bleu. C'est à 9 heures du soir que nous retouchâmes enfin la terre égyptienne en abordant à l'île de Philae, rendant grâce à ces antiques divinités Osiris, Isis et Horus, de ce que la famine ne nous avait pas dévorés entre les 2 cataractes. Nous avons séjourné dans l'île Sainte jusqu'au 7 février, terminant les travaux commencés au mois de décembre et recueillant tous les tableaux mythologiques relatifs à l'histoire et aux attributions d'Isis et d'Osiris, les dieux principaux de Philae, bas-reliefs qui s'y trouvent en fort grand nombre. Je me contenterai de donner ici les époques des principaux édifices de cette île. Le petit temple du sud a été dédié à Hathor et construit par le pharaon Nektaneb le dernier des rois de race égyptienne, détrôné par la seconde invasion des Perses. La grande galerie, ou portique couvert, qui, de ce joli petit édifice, conduit au grand temple, est de l'époque des empereurs. Ce qu'il y a de sculpté l'a été sous les règnes d'Auguste, de Tibère et de Claude. Le premier pylône est du temps de Ptolémée Philométor, qui a encastré dans ce pylône un propylon dédié à Isis par le pharaon Nectaneb, et l'existence de ce propylon prouve qu'avant le grand temple d'Isis actuel, il en existait déjà un autre sur le même emplacement, lequel aura été détruit par les Perses de Darius Otius. Cela explique les débris de sculptures plus anciens employés dans les colonnes du pronaos actuel du grand temple. C'est Ptolémée Philadelphe qui a construit le sanctuaire et les salles adjacentes de ce monument. Le pronaos est Dévergète II et le second pylône de Ptolémée Philométor. Les sculptures et bas-reliefs extérieurs de tout l'édifice ont été exécutés sous Auguste et Tibère. Entre les deux pylônes du grand temple d'Isis, il existe à droite et à gauche deux beaux édifices d'un genre particulier. Celui de gauche est un temple périptère dédié à Hathor et à la délivrance d'Isis qui vient d'enfanter Horus. La plus ancienne partie de ce temple est de Ptolémée Épiphane ou de son fils Évergète II. Les bas-reliefs extérieurs sont du règne d'Auguste et de Tibère. C'est Évergète II qui se donne les honneurs de la construction de ce temple dans les longues dédicaces de la frise extérieure. Le même roi s'est aussi emparé, par une inscription semblable, de l'édifice de droite qui, presque tout entier, est de son frère Philométor, à l'exception d'une salle sculptée sous Tibère. J'ai donné une journée presque entière à une petite île voisine de Philée, l'île de Bighé, où la commission d'Égypte indiquait le reste d'un petit édifice égyptien. J'y ai, en effet, trouvé quelques colonnes d'un tout petit temple de très mauvais travail et de l'époque de Philométor. Mais des inscriptions m'apprirent que j'étais dans l'île de Snem, nom de localité que j'avais rencontré souvent, depuis Ombos jusqu'à Daké, dans les légendes des dieux, et surtout dans celle du dieu Shnoufis et de la déesse Hathor. C'était là un des lieux les plus saints de l'Égypte et une île sacrée, but de pèlerinage longtemps avant sa voisine île de Philée, qui se nommait Manlak en langue égyptienne. C'est de là qu'est venu le copte Pilak, l'arabe Bilak et le grec Philée, sans que dans tout cela, il soit le moins du monde, question de fil, éléphant, comme l'ont prétendu de soi-disant étymologistes. Le temple de Snem, Bégé, était en effet dédié à Shnoufis et à la déesse Hathor, et le monument actuel était encore la seconde édition d'un temple bien plus ancien et plus étendu, bâti sous le règne du pharaon Amenophis II, successeur de Meurice. J'ai retrouvé les débris de ce temple et les restes d'une statue colossale du même pharaon qui décorait un des pylônes de l'ancien édifice. J'ai recueilli dans cette île, en courant ces rochers de granit rose, une vingtaine d'inscriptions, toutes des temps pharaoniques, attestant des visites et des actes d'adoration faits dans l'île sainte de Snem par de grands personnages de la vieille Égypte et entre autres, premièrement, un procinéma d'un basilico-grammate commandant les troupes sous le pharaon Amenophis III, même nom, grammate nommée Aménémoph. Deuxièmement, une inscription attestant le pèlerinage d'un grand prêtre d'Amon, prince de la famille de Ramsès. Troisièmement, celui d'un prince éthiopien nommé Mémosis sous le pharaon Aménophis III. Quatrièmement, celui du prince éthiopien Messi sous Ramsès le Grand. Cinquièmement, celui d'un grand prêtre d'Anouké nommé Aménophth. Sixièmement, un procinéma conçu en ces termes. Je suis venu vers vous, moi, votre serviteur, vous tous, grands dieux, qui résidez dans Snem. Accordez-moi tous les bienfaits qui sont en vos mains, à moi, l'intendant des terres du roi, seigneur du monde, Aménophis III, à Moses. Cet Amosis est représenté à côté de l'inscription, levant ses mains en attitude d'adoration. Septièmement, enfin, vers le haut d'une montagne de grands rochers de granit, j'ai copié une belle inscription attestant que l'an 30, l'an 34 et l'an 39 du règne de Ramsès le Grand, Sésostris, un des princes, ses enfants, a assisté à la panégyrie de Snem et l'a célébré par des sacrifices. Je ne parle point de plusieurs inscriptions purement onomastiques et de quelques autres qui, ne contenant que les légendes royales sculptées en grand, des pharaons Psaméticus Ier, Psaméticus II, Apries et Amasis, semblent avoir eu pour motif de rappeler soit le passage de ces pharaons dans l'île de Snem, soit même de grands travaux d'exploitation dans les montagnes granitiques de cette île où le granit est de toute beauté. Avant de quitter Philée, j'allais, avec messieurs Duchesne, Lhôte, Lehoux et Bertin, faire une partie de plaisir à la cataracte où nous prîmes un modeste repas, assis à l'ombre d'un centre, mimosa fort épineux, le seul arbre du lieu, en face des brisants du Nil, dont le bruissement me rappela nos torrents des Alpes. Au retour, je me fis débarquer en face de Philée, sur la rive droite du fleuve, pour aller à la chasse des inscriptions dans les rochers, de granit qui la couvrent, et du nombre desquels et le roc taillé en forme de siège, et qu'un de nos doctes amis, M. Le Trône, a cru pouvoir être l'abaton nommé dans les inscriptions grecques de l'obélisque de Philée. Ce n'est cependant qu'un rocher comme un autre, avec cette différence qu'il est chargé d'inscriptions fort curieuses, mais qui n'ont aucun rapport avec les dieux de Philée. Les plus remarquables de ces inscriptions sont les suivantes. Premièrement, une stèle sculptée sur le roc, mais à demi effacée, monument qui rappelle une victoire remportée sur les Libyens par le pharaon Thoutmôsis IV, l'an 7e de son règne, le 8 du mois de Phaménote. Deuxièmement, une stèle de son successeur, Aménophis III, Mémon, assez bien conservée, de 14 lignes, rappelant que ce pharaon, venant de soumettre les Éthiopiens, l'an 5e de son règne, a passé dans ce lieu et y a tenu une panégyrie, assemblée religieuse. Troisièmement, un procinéma à Néit et à Mandou, pour le salut du roi Mandouft, Smendès, de la 21e dynastie. Quatrièmement, un procinéma à Oramon, Saté et Mandou, pour le salut du roi Néphérite, de la 29e dynastie. Je ne parle point d'une foule de procinéma, de simples particuliers, à Schnoufis et à Saté, les grandes divinités de la cataracte. Les rochers sur la route de Philée à Sienne, et que j'ai explorés le 7 février, en portent aussi un très grand nombre adressés aux mêmes divinités. J'y ai aussi copié des inscriptions et des sculptures représentant des princes éthiopiens rendant hommage à Ramsès le Grand ou à son grand-père, Mandouéi. Ce sont les mêmes dont j'ai trouvé de semblables monuments en Nubie. Je rentrai enfin à Sienne, que j'avais quittée en décembre. En attendant que nos bagages arrivassent de Philée à dos de chameau et qu'on disposât notre nouvelle escadre égyptienne, car nous avons laissé les barques nubiennes à la cataracte, qu'elles ne peuvent franchir, je revis les débris du temple de Sienne, consacré à Schnoufis et à Saté, sous l'empereur Nerva. C'est un monument de l'extrême décadence de l'art en Égypte. Il m'a intéressé toutefois. Premièrement, parce que c'est le seul qui porte la légende hiéroglyphique de Nerva. Deuxièmement, parce qu'il m'a fait connaître le nom hiéroglyphique phonétique de Sienne, Swan, qui est le nom copte, Swan, et l'origine du Siéné des Grecs et de l'Oswan des Arabes. Troisièmement, enfin, parce que le nom symbolique de cette même ville, représentant un aplomb d'architecte ou de maçon, fait, sans aucun doute, allusion à l'antique position de Sienne sous le tropique du Cancer et à ce fameux puits dans lequel les rayons du soleil tombaient d'aplomb le jour du solstice d'été. Les auteurs grecs sont pleins de cette tradition qui a pu, en effet, être fondée sur un fait réel, mais à une époque infiniment reculée. J'ai couru, en bateau, les rochers de granit des environs de Sienne en remontant vers la cataracte. J'y ai trouvé l'hommage d'un prince éthiopien à Amenophis III et à la reine Taïa, sa femme. Un acte d'adoration à Schnoufis, le dieu local, pour le salut de Ramsès le Grand, de ses filles Isénophré, Batianti, et de leurs frères Shahemkame et Merinphtah, le prince éthiopien Mémosis, le même dont j'avais déjà recueilli une inscription dans l'île de Snem, agenouillé et adorant le prénom du roi Amenophis III. Enfin, plusieurs procinémas de simples particuliers ou de fonctionnaires publics aux divinités de Sienne et de la cataracte Schnoufis, Saté et Anouké. Je visitai pour la seconde fois l'île d'Éléphantine qui, tout entière, formerait à peine un parc convenable pour un bon bourgeois de Paris, mais dont certains chronologistes modernes ont voulu toutefois faire un royaume pour se débarrasser de la vieille dynastie égyptienne des Éléphantins. Les deux temples ont été récemment détruits pour bâtir une caserne et des magasins à Sienne. Ainsi a disparu le petit temple dédié à Schnoufis par le pharaon Amenophis III. Je n'ai retrouvé debout que les deux montants des portes en granit ayant appartenu à un autre temple de Schnoufis, de Saté et d'Anouké, dédié sous Alexandre, fils d'Alexandre le Grand. Mais un mauvais mur de quai de construction romaine m'a offert les débris entremêlés et mutilés de plusieurs des plus curieux édifices d'Éléphantine construits sous les rois Meurice, Mandouéi et Ramsès le Grand. Dans les restes d'une chambre qui termine l'escalier du quai égyptien, j'ai copié plusieurs procinémas hiéroglyphiques assez curieux et l'inscription d'une stèle mutilée du pharaon Mandouéi. Étant allé rejoindre mon escadre et n'ayant plus rien à voir ni à faire sur l'ancienne limite de l'Empire romain, je quittai les rochers granitiques de Sienne et d'Éléphantine et nous nous dirigeâmes sur Ombos, où le vent a juré de nous empêcher d'arriver, puisque, au moment où j'écris cette ligne, nous sommes au 12 février. Il est 7 heures du matin et le Nil mugit à 4 pouces de distance du lit sur lequel je suis assis. Ombos, le 14 février à 2 heures. Je suis enfin arrivé avant-hier à Ombos, vers le milieu du jour. Nous avons repris nos travaux du mois de décembre, et à cette heure-ci, ils sont terminés. Tout est encore ici de l'époque grecque. Le grand temple est cependant d'une très belle architecture et d'un grand effet. Il a été commencé par Épiphane, continué sous Philométor et Évergète II. Quelques bas-reliefs sont même du temps de Cléopâtre Coctée et de Sotère II. Ce grand édifice, dont les ruines ont un aspect très imposant, était consacré à 2 triades qui se partagent le temple, divisées, en effet, longitudinalement en 2 parties bien distinctes, l'une passant presque toujours dans des massifs de la construction. Sévèque Ra, la forme primordiale de Saturne, Chronos, à tête de crocodile, Hathor, Vénus, et leur fils Khonsor forment la première triade. La seconde se compose d'Aroéris, de la déesse Tsonenoufré et de leur fils Pnevtho. Ce sont les dieux seigneurs d'Ombos, et le crocodile que portent les médailles romaines du nommé Ombité est l'animal sacré du dieu principal Sévèque Ra. La femme de Philométor, Cléopâtre, porte dans les dédicaces et dans les cartouches sculptées sur la corniche du Pronaos un surnom qui ne peut être que le grec Tryphène ou Dropion, mais la première lecture est plus probable. Il est répété 30 fois et il est impossible de s'y tromper. Le petit temple d'Ombos était, comme l'un de ceux de Philae et le temple d'Hermontiste, un Eimisi ou Mamisi, c'est-à-dire un édifice sacré figurant le lieu de la naissance du jeune dieu de la triade locale, c'est-à-dire une image terrestre du lieu où les déesses Hathor et Tsonenoufré avaient enfanté leurs fils Khonsor et Pnevtho, les 2 fils des 2 triades d'Ombos. C'est en me glissant à travers les pierres éboulées de ce petit monument et en visitant une à une toutes celles qui bientôt seront englouties par le Nil, lequel, ayant sapé les fondations, a déjà détruit la plus grande partie du monument, que j'ai trouvé des blocs ayant appartenu à une construction bien plus ancienne, c'est-à-dire à un temple dédié par le roi Thoutmôsis III, Mueris, au dieu Sévèque Ra, et avec les débris duquel on avait construit une partie de l'Eimisi sous Évergète II, Kotché et Sotère II. Le grand temple d'Ombos n'est donc encore qu'une seconde édition, et c'est au plus ancien temple de Saturne qu'appartenaient les jambages d'un tout petit propylon encastré aujourd'hui sur la face extérieure de l'enceinte en briques qui environne les temples du côté du sud-est. Les sculptures en sont du temps de Thoutmôsis III, et le nom hiéroglyphique de ce propylon, inscrit au bas des deux jambages, était « porte » ou « propylon » de la reine Amensé, conduisant au temple de Sévèque-Ra, Saturne. On n'a point oublié que ce roi-reine est Amensé, mère de Meurice. Le grand propylon voisin du Nil est de l'époque de Philométor et conduisait au petit temple actuel. Le vent souffle toujours avec autant de violence. S'il cesse dans la nuit, nous en profiterons pour aller à Jebel Selsele, où nous attend une belle moisson des temps pharaoniques. Je ne clôt donc ma lettre que conditionnellement. Toujours Ombos, le 16, je me réjouis d'avance en pensant que j'aurai peut-être à Thèbes un nouveau courrier. J'y serai à la fin du mois. Je trouve les lettres de Paris un peu courtes. On oublie que je suis à 1000 lieues de France et les soirées sont si longues. Toujours fumer ou jouer à la bouillotte. Il nous faudrait une bonne édition des petits paquets de Paris. Qu'on ne me trouve pas exigeant. J'ai presque le droit de l'être sous les auspices des 27 pages que je viens d'écrire et que je clôt au plus vite, de peur qu'on ne dise que les plus grands bavards du monde sont les gens qui reviennent de la seconde cataracte. Comme nos courriers pour le Caire vont à pied, et que le vent ne les arrête pas, je fais partir ce soir même celui qui nous a apporté nos lettres de France. Je n'ai pas oublié les notes de M. Letronne. Il apprendra avec intérêt que le listel sur lequel est gravée l'inscription d'Ombos était doré et que les lettres ont conservé une couleur rouge vif, encore très visible. Je n'ai pu vérifier ce qu'il y avait sur Sérapis à Taffa, la pierre qui devait porter ce nom, n'existant plus. Adieu. Fin de la troisième partie de 3 de la 11e lettre, ainsi que du 8e fichier des lettres écrites d'Égypte par Jean-François Jean-Paul Léon.